Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, il y a un peu plus de personnes réveillées. Je me disais, on s'entraîne aujourd'hui parce que demain, à nouveau, il faudra se réveiller un peu plus tôt. Le privilège des chrétiens, c'est qu'on commence un dimanche par se lever un peu plus tôt. Mais gloire à Dieu. Jean-François disait qu'il y avait des... Lors d'un culte, il y a des paroles qui sont diverses et variées. Et le Seigneur a... Alors, ce n'est pas un menu à la carte, c'est lui qui choisit le menu pour chacun d'entre nous. Et il y a des paroles qui sont préparées d'avance pour lui, pour chacune de nos vies. C'est du sur-mesure. C'est du travail d'artiste, alléluia. Et donc, j'avais commencé il y a 3 semaines... Donc un message qui était sur la couverture de Dieu. Donc je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais comme je n'avais pas fini, donc je poursuis. Vous êtes d'accord? Bon. Donc on va reprendre rapidement les premières diapos, et puis on va aller un petit peu plus loin. Et donc la couverture de Dieu, c'est vraiment... On la trouve partout dans la Bible. On pourrait dire aussi que c'est l'alliance que Dieu... a prévu pour chacun d'entre nous l'alliance de Dieu, l'ancienne et la nouvelle, qui est une alliance faite pour les hommes, pour le bénéfice des hommes. Et avec Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans une alliance excellente et parfaite. Donc voilà, c'était un exemple rapidement De la couverture de Dieu qui est comme un parapluie, mais bien plus qu'une couverture qui couvre tous les aspects de notre vie, bien au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et donc j'avais pris le psaume 91, mais aussi le psaume 121, qu'on peut relire rapidement, parce que ça nous replace dans les conditions que Dieu a voulu. Psaume 121, cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Vous voyez, c'est comme un filet qui nous enveloppe, mais vraiment pour nous garder de tous côtés, de toutes parts, dans toutes les situations. Ça, ce sont les perfections de Dieu, le modèle divin, était bien là dès le début. Et donc, rapidement, je vous avais expliqué que l'homme, il nous en est parlé dans la Genèse, avait reçu de la part de Dieu à la fois puissance et autorité. Je recommence. Avant la chute, donc l'homme avait reçu puissance et autorité de la part de Dieu. Il avait cette mission de garder le jardin. Il avait tout reçu de la part de Dieu. Le diable, par sa tromperie, est venu enlever l'autorité que lui avait perdue et donc usurper l'autorité que Dieu avait confiée aux hommes. Et donc, il a récupéré cette autorité pour justement... manipuler l'homme, le conduire, lui, dans sa volonté de destruction de l'homme et à travers tout ce que vous pouvez lire dans la Genèse, mais aussi dans toute la parole, vous voyez toutes les errances, je vais dire, de l'homme loin de Dieu. Ses chutes et ses rechutes, les moments où il vient au Seigneur, il retrouve le chemin de Dieu, le chemin que Dieu a préparé pour lui, et il repère à nouveau. Et donc je continue. Ah. Et je vous avais parlé de l'autorité et de la puissance. Donc l'autorité que l'homme a perdue, il a gardé une puissance, mais l'autorité donc signifiant le droit de faire quelque chose. Et comme je vous avais parlé donc, du général d'une armée qui a donc l'autorité sur cette armée pour l'envoyer à droite et à gauche, et l'armée étant la puissance. Et l'autorité étant le droit de faire quelque chose qui a été délégué par quelqu'un qui a autorité. Et donc à la nouvelle naissance, je vais assez vite, mais je ne vais pas passer 2 heures parce que je pense que vous avez envie de faire peut-être une petite sieste cet après-midi. Non ? Donc à la nouvelle naissance, le Seigneur a pourvu à ce que nous avions perdu pour retrouver l'autorité. Et donc il confie son autorité et sa puissance à ses disciples, à ses serviteurs, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile qui est venu pour libérer les hommes, qui est venu pour les réconcilier avec Dieu. Donc je continue toujours. Et donc, la valeur de cette couverture, au final, qu'est-ce qu'elle a pour nous ? Qu'est-ce que nous en avons compris ? Et donc, ce que je vous ai indiqué, nous nous plaçons sous l'autorité de celui à qui nous choisissons d'obéir. Dans notre vie de chrétiens, nous avons reçu l'éclairage de Dieu. Le Seigneur éclaire notre conscience. Et nous savons que par moments, bien sûr, nous marchons sous l'autorité du Seigneur, nous marchons dans sa volonté. Et il y a d'autres moments, nous savons très bien, ce n'est pas la peine de faire de grands discours, nous savons que nous n'avons pas marché sous l'autorité du Seigneur Jésus, bien qu'étant chrétien. Et donc, cette couverture, à ce moment-là, on l'a perdue. Et ça peut se passer comme ça, jusqu'au moment où le Seigneur éclaire notre vie, encore un petit peu plus. C'est pour ça que je vous disais, il y a un message, il y a une parole précise, sur mesure, pour chacun d'entre vous, dans ce culte, dans les autres. Mais depuis le début, c'est vrai que j'ai entendu, gloire à Dieu, beaucoup de choses qui sont là, qui sont des messages qui sont divers, mais qui sont pour chacun d'entre nous. Et donc, devons avoir conscience qu'il y a ce combat spirituel qui se passe autour de nous, parce que Satan est toujours sur cette terre. Il est le prince de ce monde. Et donc, quand il nous est dit de résister au diable, il fuira loin de vous. C'est bien clair. C'est bien clair que notre conscience éclairée doit prendre position dans des situations, dans des mauvaises habitudes, et de dire, mais ce n'est pas vraiment ma destinée, ça. Ça, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Où je m'en vais, là ? Est-ce que je suis aveuglé ? Et le Seigneur, dans sa bonté, met ça dans notre conscience. Il n'est pas celui qui s'impose. Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Ce n'est pas avec violence que le Seigneur le fait, mais il éclaire cette vérité pour nous amener vers un changement, nous amener vers une libération. Et donc, j'en étais arrivé que le Seigneur nous a donné un schéma, beaucoup plus qu'un schéma, ce sont des structures. La parole de Dieu a prévu des structures qui sont là pour nous garder, a prévu à la fois ses commandements, mais plus que ça. Et à travers à travers notamment la famille, le mariage. Donc nous pouvons lire donc Éphésiens 5, 22. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Donc là, il est parlé l'épouse soumise à son mari et le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Et verset 25, le verset pour le mari, pour les hommes, mes frères, écoutez-moi. Vous, les maris, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Alors là, Jean-François nous rappelait le témoignage qui s'est passé cette semaine là, de quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Et par moments, nous, en tant que mari, que père de famille, nous pouvons aller jusque-là. Aimer notre épouse comme le Christ a aimé l'Église. C'est impossible pour nous. Pour nous, humainement, c'est impossible. Si nous ne dépendons pas du Seigneur, si nous ne recherchons pas cet amour divin qui est sans calcul, qui est gratuit, si nous n'avons pas cet amour-là, nous ne pouvons pas aimer notre épouse. Nous allons calculer, nous allons faire des concessions, des choses, mais qui ne sont pas libres. L'amour de Dieu, il est libre. Il ne calcule pas. Il aime sans condition. Et donc, je vous ai mis en dessous aussi ce que dit David Cross. Alors, David Cross, c'est l'auteur du livre « La couverture de Dieu » et qui est un ministère d'enseignement dans Hillel, donc d'où je tire cette prédication, où j'ai reçu cet enseignement. Et donc, David Cross dit que c'est une union sous la même mission. Il s'agit d'une étape dans laquelle Dieu nous demande de livrer nos vies dans une relation de confiance vulnérable, le mariage. Dieu nous demande de livrer nos vies dans une relation de confiance vulnérable. Une confiance vulnérable. C'est toute la vulnérabilité, oui, de notre vie de couple. Et on sait qu'on est fragile, mais il y a une confiance. C'est que là aussi, il y a une alliance qui a été faite, une alliance que Dieu garde. Ne soyez jamais désespérés dans votre relation de couple, parce qu'il y a Dieu qui garde cette alliance. Bien sûr, nous sommes vulnérables et nous avons besoin, hommes et femmes, du Seigneur. Mais il a prévu cette alliance. Ce que Dieu a prévu, il le garde précieusement. Il nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Donc, ensuite, toujours sur la famille, quand il s'agit de l'éducation. Donc, dans Colossiens 3, 20, 21, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voilà des choses que vous ne découvrez pas aujourd'hui, mais qu'il est toujours bon de rappeler pour qu'elles prennent une réelle dimension. Et donc, à la fois en tant qu'enfants, nous restons des enfants. Il faut aussi se rappeler que dans Deutéronome 5, il est dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et lorsqu'il nous reste nos parents, nous avons à honorer nos parents. Et ce sont des rappels, ce sont les barrières que Dieu a mis autour de nous pour nous garder, pour que nous soyons heureux sur cette terre. Et la famille, c'est bien sûr le premier lieu où on va vivre l'amour. C'est le premier lieu où le Seigneur a prévu des relations de confiance, une éducation saine et puis une saine protection aussi. Donc c'est aussi une couverture. La famille est une couverture. Là où il y a une saine protection. Et je vous en ai parlé quelquefois, l'enfant est un être très fragile. Quand on compare ça donc à ce qui se passe dans la nature, un fruit tombé au sol, comme un gland qui tombe du chêne, quelquefois il y en a des milliers, ils sont très vulnérables, ils peuvent se faire écraser par un passant, par une voiture. Mais lorsque le chêne s'est enraciné et qu'il a déjà 10 ans, vous pouvez taper dedans, hein, ça commence à être solide. Donc je ne vous parle pas quand il a 100 ans. C'est un monument, quelquefois. Il y a des arbres historiques dans nos campagnes. Et ils sont bien plus solides. Mais c'est pour vous imaginer la fragilité de l'enfance. Et dans bien des situations, des blessures de l'enfance continuent de nous retenir, de nous garder prisonniers durant notre vie d'adulte et quelquefois jusqu'au dernier jour. Et le Seigneur prévoit tout au long de sa parole des choses qui sont des enseignements pour les parents, des enseignements pour les époux et les épouses, mais aussi pour les pères et les mères. Et cette parole, elle est vraiment, la notice d'emploi. Elle est aussi bien plus, on dirait, la notice de maintenance, puisqu'en fait, le Seigneur répare à travers sa parole aussi, et nous explique comment une famille doit vivre. Et la mère, bien sûr, apporte beaucoup plus l'amour inconditionnel et l'éducation, alors que le père, lui, va apporter la protection. Le père, c'est celui qui amène à l'extérieur et qui rassure son enfant et qui amène la protection, mais aussi les conditions d'une bonne affirmation de soi. C'est le père qui donne la personnalité, qui affirme la personnalité à un petit garçon, à une petite fille. Donc voilà pour la famille, les communautés, donc les églises, donc les lieux de travail, les lieux de vie locale. Donc dans Colossiens 3, 22, c'est la suite. Hein. Donc serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Dans nos situations de travail, dans nos situations où nous sommes à l'écoute d'une autorité, d'une responsabilité, faites tout, donc de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il y a quelque chose à comprendre dans l'autorité, le système d'autorité que le Seigneur a voulu. Mais ça ne se comprend pas avec la tête. Parce que naturellement, l'homme, il est en révolte, il est en rébellion. Quand je dis l'homme, c'est aussi la femme. Et nous vivons dans un environnement, et bien sûr, on voit les choses se dégrader, où les autorités mais ne sont plus du tout respectées, où il y a des cités de non-droit, où c'est l'anarchie totale. Et ce que nous sommes appelés à témoigner et à vivre, c'est que le Seigneur a mis sa nature dans notre cœur et que nous n'allons pas nous associer aux chiens qui hurlent la révolte et la haine. Mais que, ayant été touché, renouvelé, sachant que Dieu a établi des autorités, c'est Dieu qui l'a fait, nous devons nous y soumettre. Donc je continue, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc tout ça, c'est se mettre sous le parapluie de Dieu. Et je vous avais témoigné à un moment que, dans le travail précédent que j'avais eu, il y avait eu une situation vraiment de très bonne relation pendant un an avec ma direction. Puis à un moment donné, il y a eu un problème et donc c'était vraiment difficile, donc cette confrontation qu'il pouvait y avoir. Et donc j'allais le matin en disant « Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé là ?» Parce qu'il y a bien une raison, quoi. Autant les portes s'étaient clairement ouvertes, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé là, quoi? Et donc j'étais dans une révolte contre ce qui se passait, quoi. Et petit à petit, le Seigneur est venu mettre la paix dans mon cœur en disant, ne t'occupe pas de ça, c'est moi qui m'occupe de ça. Marche seulement. Ce responsable prend les décisions, bonnes ou mauvaises, mais toi, tu n'as pas à te rebeller contre lui. Tu as à le bénir et tu as à prier pour lui. Et je me suis mis à prier pour lui. Et les choses, c'est pas en un clin d'œil que ça a changé. Hein. Mais au fur et à mesure, ça s'est passé. Et vraiment, la paix était dans mon cœur. Et ça a été une étape, mais pour autre chose aussi. Et ce qui fait que dans ces situations, quelquefois, on dit, mais c'est très injuste. Et puis, on est en révolte. Et puis, c'est pas comme ça que j'avais compris. Et puis, on tape du pied. Et le Seigneur est là, il dit, calme-toi, mon enfant, je suis là. Cet homme, cette femme que j'ai placée en situation d'autorité, c'est moi qui l'ai fait. Je suis bien au courant de ce qui se passe. Mais toi, tu es la lumière du monde. Je ne t'ai pas appelé à contester. Je ne t'ai pas appelé à te braquer. Je t'ai appelé à être un témoin de Jésus-Christ. Regardez comment Jésus a été sur cette terre. Dans une parfaite soumission aux autorités. Il ne répondait pas à tout. Bien au contraire. Et donc, le fameux verbe obéir et obéissez qui est cité, c'est un impératif. Donc, on l'entend comme un ordre, pas comme une option, première, secondaire, etc. Non, 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 c'est bien. C'est plus qu'une recommandation. Obéissez. Et c'est difficile. C'est difficile pour tous les hommes et toutes les femmes, parce qu'en nous, il reste des traces de cette rébellion. Et alors que le Seigneur a voulu un cadre sécurisant, et plus nous sortons de ce cadre sécurisant, plus c'est difficile. Parce qu'en fait, il peut y avoir des abus de langage, des abus de comportement dans des situations de famille, des situations d'église, des situations d'entreprise. Parce qu'en fait, nous avons affaire à des hommes. Mais le Seigneur a établi des structures d'autorité. Comprenons ça. Et l'obéissance, qui vient nous qualifier pour obéir? Celui qui a obéi parfaitement. Nous trouvons en Christ l'obéissance parfaite. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et on se dit, mais Seigneur, mais tu n'avais pas besoin d'apprendre l'obéissance. Mais il est venu pour témoigner de son obéissance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Afin que le sacrifice soit parfait. Afin que nous soyons au bénéfice de ce caractère d'obéissance qu'il met en nous. Donc je continue. Alors, non, je suis. Reviens en arrière. Et donc, bien sûr, tout ça, ce sont des lois spirituelles. Et le Seigneur a établi des lois spirituelles et des lois physiques qui, de toute façon, quoi qu'on en dise, petit homme, petite femme sur cette terre, ça ne changera rien du tout. Les lois de Dieu s'appliqueront. Et le Seigneur nous a donné cette nouvelle alliance dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand nous restons dans les conditions de l'alliance, nous sommes garantis. Si vous prenez les conditions d'un contrat d'assurance, si vous prenez le volant, alors que vous n'avez pas de permis ou vous êtes en suspension de permis, vous avez un accident, est-ce que l'assurance va vous couvrir ? Lisez bien le contrat d'assurance. C'est la même chose avec le Seigneur. Si nous ne restons pas sous son alliance, sous cette couverture, nous ne sommes pas nous ne sommes pas garantis. Nous sommes dénudés, comme Adam et Ève, dont je vous avais parlé il y a 3 semaines, dans le jardin, se sont trouvés nus et ont eu peur. Et c'est Dieu qui a dû les revêtir. Je crois que tu as pris de l'avance, Givorg. Donc là, Jésus a pourvu à toute l'application de la loi de Dieu. Et donc, non, c'est bon, là, reviens là. Voilà. Donc dans Matthieu 5, verset 17, il nous est dit, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et ce qu'on entend et ce qu'on a pu vivre avec ça, et moi je l'avais sur mon cœur pendant un certain temps, c'est qu'on disait, mais avec Jésus, tout est réglé. Tout est réglé. Tu me parles de l'Ancien Testament, mais tout est réglé. Le Seigneur a tout accompli. Quand on nous parlait des péchés de nos pères, l'héritage de mon père, de mon grand-père, l'héritage de péchés, de choses iniques qu'ils avaient pu commettre, on les traîne pendant 3 et 4 générations. Mais la bonté de Dieu pendant 1000 générations. Et Jésus nous a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Les commandements de Dieu donnés à Moïse sont toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit ? Mais je suis venu pour l'accomplir. Un seul pouvait accomplir parfaitement la loi, Jésus. Il est notre justice, il est notre perfection, il est notre sainteté. À travers ça, ce que je veux vous dire, c'est que toute la nature pécheresse, la nôtre, celle de nos pères, il y a des conséquences dans notre vie. Mais tant qu'un péché n'est pas reconnu, tant que nous n'avons pas reconnu que nous sommes souillés avec ce péché, et même que nous avons trouvé que le goût était bon, finalement, et que nous avons traîné ça, tant que nous n'avons pas remis ça au Seigneur, en disant, Seigneur, mais j'étais complètement dans les ténèbres. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Reconnaître et confesser que nous étions, nous aussi, dans le péché jusqu'au cou. Et sur des choses que le Seigneur nous révèle, un à un, et pas avec violence, mais avec douceur. Donc le Seigneur, à travers, je vous dis dans ça, l'approche qu'il a vis-à-vis de chacun d'entre nous, ce n'est pas une approche violente et autoritaire. Il ne faut pas confondre autoritarisme et l'autorité. Venez à moi. Dans Matthieu 11, 28, 30, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug et les instructions, ça veut dire je me mets sous ton autorité, Seigneur. Je me mets sous ton commandement, sous ton alliance. Et si ça brinque-balle à droite et à gauche, si je suis inconfortable sous ce joug, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans mon cœur. Il va vous le montrer. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'agitation va finir, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, à travers nos vies, nous avons pu... Tu peux laisser la 10, celle d'avant. À travers nos vies, nous avons pu expérimenter aussi des parapluies troués. des parapluies confectionnés par des hommes ou par nous-mêmes. Et des situations, vis-à-vis de situations de tromperie, de mensonges, d'abus par les hommes ou par les femmes, nous avons fait notre propre protection, nos autoprotections, indépendants de Dieu. Je vous ai dit déjà, dans ma jeunesse, j'avais dit, n'appartient à personne, j'appartiens à personne. Vous vous rendez compte du cheminement qui s'est passé. Il faut que le Seigneur ait éclairé ma vie pour me libérer de ces jougs-là. Et nos parapluies percés, c'est vraiment... En fait, il est normal de chercher une protection parce que le Seigneur a voulu nous protéger. C'est une situation qu'on recherche de se mettre à l'abri. Et donc, ça nous a produit, comme Adam et Ève a fabriqué des ceintures avec des feuilles de figuier qui ne couvrent pas grand-chose. Mais sous le poids de la honte, souvent du péché, des abus, des douleurs donc causées par le péché, nous avons fabriqué ce que nous pensions être bon. Et c'était contre la volonté de Dieu. Et je voulais vous parler d'un témoignage, je crois que c'est David Cross qui a parlé de une situation, quelqu'un qui était venu vers lui pour demander la prière et qui était donc dans une situation d'handicap, donc son squelette avait été abîmé durant l'enfance. Et c'est un exemple d'une protection là dans la famille qui n'a pas fonctionné. Donc ce petit garçon était donc, je ne sais pas quel âge il avait, il était sur une remorque de paille, et donc il devait aider à ranger les bottes donc sur cette remorque, et puis arrivé à la maison. Quand on est tout en haut, on se dit mais comment je vais descendre quoi? Et surtout si on est un enfant, on a besoin de l'aide de notre père par exemple. Et là, dans cette situation, ce père avait dit « Saute, tu n'as rien à craindre. » Et parce qu'il était en bas pour l'accueillir. Et au moment où le garçon allait arriver par terre, le papa a enlevé ses bras. Et bien sûr, on se dit « Mais c'est impensable, quoi. » Et là, le père dit « C'est pour t'apprendre à ne pas faire confiance aux hommes. » Le problème, c'est que le garçon, il a été handicapé et jusque dans sa vie adulte, subissait là la mauvaise couverture de son papa. À travers la prière, le Seigneur a révélé ce souvenir d'une protection qui n'avait pas été là où elle devait être. Donc cet homme a pu pardonner à son père, a pu aussi demander pardon au Seigneur d'avoir utilisé des mauvaises protections dans sa vie. Donc, il est revenu à la racine du problème et cet homme a été guéri. Gloire à Dieu, parce qu'il va jusqu'à la racine de nos problèmes. Et il a voulu pour chacun d'entre nous des protections. Et dans plusieurs exemples de situations de mauvais fonctionnement de la vie chrétienne, à un moment donné, la protection de Dieu, celle qu'il avait prévue, que ce soit celle de Dieu directement, dans notre obéissance, ou celle de nos parents ou d'autorité, n'a pas été là. Et il y a eu une blessure, ça peut aller jusqu'à la destruction, ce genre de choses. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui, quelquefois, est débattu dans les églises, c'est la délivrance. Parce que là, c'est vraiment un exemple où la protection de Dieu n'a pas été en place. Et donc, souvent la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Donc, il y a différentes versions, parce que ça correspond à des doctrines, quelquefois, d'église. Et un chrétien n'est pas possédé. Et je vous ai mis l'exemple d'une maison, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Sa maison, a changé de propriétaire. Avant, elle avait un propriétaire qui s'appelait Satan. Maintenant, la maison, elle appartient à Jésus. Ça, c'est clair et c'est net. Par contre, dans la vie passée, il y a eu des influences dans cette maison qui étaient des portes ouvertes ou des fenêtres. Mais je vous ai indiqué un esprit de peur qui pouvait être, par exemple, dû à un accident et chez un enfant. Et à travers l'accident, il y a un esprit de peur qui est venu toucher un enfant et qui traîne ce problème-là pendant assez longtemps, en tout cas jusqu'au moment où le Seigneur met la lumière sur cette zone de peur et qui continue de conditionner la vie d'un chrétien qui se donne de tout son cœur au Seigneur. L'esprit d'adultère, ça peut être c'est autre chose, c'est une autre influence, mais ça peut continuer, mais il y en a des quantités de choses qui peuvent influencer et venir perturber la vie des chrétiens. Donc cette maison ne connaissait pas la lumière et elle était impactée par le péché, impactée par des esprits mauvais. Et donc, ces domaines de notre vie n'ont pas été restaurés tant que les choses n'ont pas été amenées à la lumière. Tant qu'on n'a pas reconnu qu'on était sous une mauvaise autorité, sous une mauvaise couverture, et de passer de la mauvaise à la bonne. Et donc, dans la délivrance, en fait, on a donné des droits à l'ennemi. Quelquefois, ça pouvait être nos parents, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui a fait rentrer à l'occasion je vous ai parlé d'une peur, d'un accident, et un esprit mauvais a pris l'occasion pour venir nous toucher. Et la délivrance, ce n'est qu'une question d'autorité. Qui est réellement maître de ma vie, de cet aspect de ma vie, des sentiments, des émotions de peur, ou de la sexualité, comme je vous ai mis là, mais ça peut être autre chose. Et donc, est-ce que je suis sous l'autorité de Jésus? Est-ce que je suis sous l'autorité de Satan? Et donc, la vérité vient dans nos cœurs quand on lui demande « Seigneur, fais la lumière dans mon cœur ». Et pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises lors d'enseignements, il y a quelque chose qui s'éclaire. Là, et sans rien chercher. Et donc, on peut prier pour ça, pour que cette chose-là soit amenée à la lumière et que, dans notre vie, nous changions d'autorité sur cette partie-là de notre vie. Et la délivrance, c'est tout simple. Quelquefois, on peut avoir recours à des gens qui ont un ministère qui voient clairement dans la vie. Mais je peux vous dire qu'à 90%, le Seigneur met dans le cœur des personnes ce qui ne va pas. C'est ça, cette relation de cœur à cœur qu'on vit avec le Seigneur. La vie d'un chrétien, c'est à cœur avec le Seigneur. Et la simplicité qu'il a pour mettre avec douceur, sans condamnation, « Mon enfant, donne-moi ce problème. Expose-le-moi. Je suis ton père. J'ai prévu que tu sois gracié. La grâce surabondante de Jésus, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc, le monde des ténèbres est un monde très légaliste. Là où il y a un droit, il faut être sûr qu'il conserve ce droit, il ne négocie pas. Hein. Et un des exemples que j'ai pris parce qu'il est assez parlant, c'est l'exemple des semences et des récoltes. Si vous semez des petits pois, vous allez récolter quoi? Des petits pois. Du maïs? Bon, des carottes. Et si on sème du jugement, nous allons récolter du jugement. Donc dans Luc 6, verset 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Alors quelquefois, on utilise ce verset-là pour notre générosité à donner matériellement, financièrement pour l'Église. Mais avant, il est parlé quand même de « ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Pardonnez, vous serez... » Donc, c'est une semence qui est dans notre cœur et qui peut être donnée, qui peut être multipliée même. Parce que quand vous plantez une graine de maïs, il y a un grain de maïs à sortir ? Non, il y en a vraiment plusieurs. Hein. Donc ça peut nous causer des ennuis qui se répètent. Et quelquefois dans nos vies, il y a des choses qui peuvent se répéter aussi. C'est comme si on avait un écriteau dans le dos. Celui-là, tu peux le juger, tu peux le condamner. Il y a des gens qui vont se placer devant vous et puis qui vont vous condamner, vous juger. Et puis à chaque fois, vous vous dites, mais qu'est-ce qui arrive, quoi ? Demandez au Seigneur ce qui se passe. Dans les situations qui se répètent, ce sont des signaux. Quand ça se répète régulièrement, vous identifiez, vous dites, mais il y a un problème là quand même. C'est sérieux. Seigneur, viens me montrer. Toi qui connais tout de ma vie, viens me montrer dans les profondeurs là où je ne t'ai pas obéi. Là où il y a une racine dont l'ennemi se sert pour venir me condamner, venir m'influencer, venir me conduire dans ses voies. Et donc sortir de la mauvaise main d'autorité et nous placer sous l'autorité de Dieu. Et donc la délivrance, c'est vraiment des droits qu'on enlève à l'ennemi. On se replace sous la couverture de Dieu, sous l'alliance parfaite de Jésus-Christ. 1 Jean 3,8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est notre solution. Alléluia, celui qui a obéi jusqu'au bout, celui qui s'est soumis parfaitement à son Père. Et Colossiens 2,15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Les esprits mauvais ne contestent pas avec Jésus. Parce que publiquement, Jésus a triomphé de toutes ses puissances. Quand nous nous replaçons, quand nous enlevons les droits à l'ennemi, quand le Seigneur nous a révélé quelque chose, quand le Seigneur nous a montré les profondeurs, il y avait quelque chose d'enraciné, comme ce jeune garçon qui était tombé de la charrette de paille et s'était brisé, je ne sais plus si c'était au niveau de la colonne vertébrale, et avait vécu pendant peut-être 20 ans encore avec ça, quand il a reconnu. Mais voilà ce qui s'est passé. Je pardonne à mon papa. Et Seigneur, je te pardonne. Je te demande pardon d'être mis des ceintures de figuier. Et à partir de ce moment-là, on enlève les droits à l'ennemi. On vient avec la grâce de Dieu qui éclaire cet endroit de notre vie. Là où c'est éclairé, on remet tout au Seigneur. Là, j'ai mal agi. Là, c'était ma propre volonté. C'était mon esprit irrégénéré qui fabriquait je ne sais quelle autoprotection qui jugeait mon père. Seigneur, je te demande pardon. Et quand les droits sont enlevés, les esprits mauvais, donc je vous ai dit qu'ils sont très légalistes, quand tout est amené à la croix, ils n'ont plus aucun droit. Et la délivrance se fait sans bruit. Parce que la mine a été déminée. Et donc c'est vraiment aller à la racine du mal. Et le Saint-Esprit vient révéler la vérité, éclairer ces choses dans nos cœurs. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et le Seigneur ne brûle pas les étapes. Et donc, c'est aussi, une fois que les choses sont révélées, c'est de renoncer à tout ça. Renoncer à toutes ces influences, renoncer à ces comportements. C'est voir quelquefois renoncer à des avantages. Et bien sûr aussi briser tous les liens iniques, les liens démoniaques qui ont pu se faire entre les personnes et sous lesquelles nous étions prisonniers. Et le Seigneur vient faire ce ménage petit à petit. Il enlève les liens. Il enlève tous ces mensonges qui ont piloté notre vie pour nous rendre libres. La délivrance, c'est tout simplement une question d'autorité, de nous placer, quand nous avons la révélation, sous l'autorité de la main puissante de Jésus-Christ. Et donc, je passe donc à la diapo suivante. Je crois que c'est la dernière. Ouf! Mais il faut quelquefois se méfier quand le prédicateur dit j'en arrive à ma conclusion, parce que la conclusion peut être aussi longue que la prédication. Je vais essayer de faire plus court. Comment retrouver cette couverture de Dieu? Je prends encore un psaume, comme au début, parce que c'est vrai, tous les psaumes nous parlent de cette protection. Donc le psaume 32 de David, poème « Heureux celui dont la transgression est enlevée ». Amen. Alléluia. Dont le péché est pardonné. Alléluia. Amen, Seigneur, c'est toi qui as fait ça et tu n'en as pas fini avec nous. Merci pour ta fidélité de tous les instants. Et là où je boite, tu as prévu de réparer ce qui boite. Tu as prévu de me garder. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Quand elle est remise. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu. Misère de misère. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Est-ce que c'est la vie d'un chrétien, ça? Alléluia! La vie d'un chrétien, c'est d'être lumière dans ce monde. Alléluia! Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Amen. Alléluia. Et donc, bien sûr, derrière tout ça, derrière toute la délivrance, derrière cet exemple de couverture, on voit le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus sur cette terre, celui qu'il a au ciel, et la bonne nouvelle qui se répand dans nos cœurs, qui se répand par toute la terre pour libérer les captifs. Et derrière tout cet exemple d'autorité, bien sûr de restauration, de la bonne autorité dans notre vie, c'est la restauration de l'alliance que Jésus est venu faire. Les hommes qui ne pouvaient pas suivre l'ancienne alliance, Jésus, le Père a donné Jésus, et dans son obéissance et sa soumission parfaite, pour que nous soyons, nous qui plaçons notre confiance en lui, vraiment sous le bénéfice de sa justice pleine et entière. Et le but de la croix, c'est de nous remettre en état de faire la volonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Les chemins tortueux, il les a rendus droits. Nous placer sous son autorité. Et qu'est-ce que c'est bon d'être sous l'autorité, sous la main de Dieu. Dieu est prêt pour nous écouter. Rien n'est caché pour lui. Il n'y a aucune situation désespérée. Mais il nous dit, que veux-tu que je fasse ? Nous sommes acteurs. Nous sommes acteurs dans cette restauration. Ça dépend de notre désir, de notre acceptation. Que veux-tu que je fasse ? Que je te fasse ? Expose ta blessure, malgré la douleur que tu as voulu cacher. Mais maintenant, parle. Reconnais, confesse et pardonne. Invoque-moi et je te répondrai. Je suis l'Éternel qui te délivre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que, alléluia, tu nous as fait connaître, Seigneur, ta vérité. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Seigneur, viens déposer ta vérité au fond de notre cœur, Seigneur. Tu connais chaque vie, chaque parcelle de notre vie, Seigneur. Seigneur, je me place avec mes frères et mes sœurs sous ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as envoyé ta parole, Seigneur, afin que nous soyons guéris. Seigneur, continue d'envoyer ta parole de vérité dans les uns et les autres, Seigneur, afin que nous soyons guéris, délivrés, pardonnés, Seigneur. Et Seigneur, que nous ne vivions plus, Seigneur. Oui, Seigneur, avec ces ceintures qui ne cachent rien du tout, avec nos autoprotections. Mais Seigneur, que nous vivions, Seigneur, dans la joie et dans l'abondance, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. Donne à chacun et chacune, Seigneur, dans le fond de son cœur, Seigneur, d'aller plus loin dans ta grâce, Seigneur. Seigneur, je sais que dans ta fidélité, tu as commencé une œuvre qui n'est pas prévue qu'elle s'arrête. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de continuer ton œuvre dans chacun et chacune, Seigneur. Tu sais où nous en sommes, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour les perfections de ton amour. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous. Amen.